Je voudrais aujourd'hui vous expliquer ce que nous célébrons, la fête du Christ roi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si facile à comprendre. D'abord, cette fête est une institution récente dans le calendrier liturgique. Ça apparaît en 1925, et c'était aux yeux de la tradition, bien sûr. C'était hier. Mais il faut bien avouer que pour nombre d'aspects, cette tradition, cette foi, cette culture et cette espérance remontent à beaucoup plus haut, nous allons le voir. C'est le pape Pie XI qui, en 1925, institue cette fête. Et il le fait pour trois raisons. Il y a trois sources, si vous voulez, trois motivations. Tout d'abord, la première, c'est qu'on sort de la guerre 14-18. Il y a un siècle déjà, cette guerre. On sort de la guerre 14-18 et évidemment, les séquelles marquent considérablement et toujours les esprits. Et Pie XI veut imposer le Christ comme figure de la paix, comme celui qui doit régner contre un autre règne qui, lui, semble avoir triomphé, celui de l'absurdité des querelles d'alliances politiques. Et ces alliances politiques, plus ou moins tordues, font toujours aboutir le règne des pires des fléaux. Contre ça, Pie XI propose la figure idéale d'un règne de paix. La deuxième source, la deuxième raison, peut-être que vous avez un peu oublié, parce que c'est déjà dans l'histoire, mais nous sommes en 1925, en pleine période de persécution acharnée des chrétiens. On ne s'en rend plus compte. Alors il y a des choses que nous savons, qui n'ont pas quitté nos mémoires, et puis d'autres choses que nous ignorons, nous autres, complètement en Occident. Par exemple, la persécution des Mexicains. Et le pape est absolument effaré de voir que ce sont des peuples très fortement enracinés, traditionnellement enracinés dans le christianisme, qui subissent les pires des injustices. La persécution, mais complètement injuste. Et on ne persécute pas des gens qui sont venus comme des envahisseurs. On ne persécute pas des gens qui seraient, je ne sais pas, hostiles à tel ou tel régime politique. On persécute ceux qui sont là depuis des siècles, ceux qui ont ensemencé le pays. C'est en Russie avec l'Union soviétique et c'est au Mexique avec la persécution systématique des chrétiens. Le pape est effaré de ça et il est surtout effaré du niveau d'injustice et du niveau de violence. Des choses, bon, heureusement, on oublie. Mais quand même, il faut garder ça en tête. Et contre ça, le pape insiste sur le fait que nous pouvons légitimement espérer, comme le font ceux qui sont toujours, vous savez, dans les pires détresses, certainement aujourd'hui les chrétiens d'Orient, nous pouvons espérer qu'un jour, il y aura une justice. Qu'un jour, justice sera faite. Et c'est curieux comme ça monte au cœur de tous les persécutés du monde entier. Et même si à vue humaine, ils savent que probablement ils ne verront pas la fin de ces abominations, monte à leurs lèvres, presque universellement, ce cri d'espérance, un jour, il y aura une justice. Et le Christ roi, la fête du Christ roi, a été instaurée un peu aussi dans cet esprit. Le Christ juge, d'où les textes que vous avez entendus tout à l'heure dans la liturgie. La troisième source, la troisième raison, c'est que le pape veut contester, il a probablement raison, il veut contester ce qu'on peut appeler l'athéisme public. Vous savez, cette espèce de tranquille et idiote position qui consiste dans nos institutions, européennes en particulier, françaises d'une manière singulière, à dire qu'à partir du moment où on sert l'État, nécessairement, on est athée. Il veut lutter contre ça. Il veut lutter contre ça Avec deux choses, évidemment, deux arrière-pensées. La première, c'est que il vaut mieux, somme toute, au vu des résultats, le règne du Christ que d'autres formes de règne. Et puis, il faut bien avouer qu'il y a à cette époque, souvenez-vous la date, 1925, il y a à cette époque, comme il y a eu quelques années avant une égyptomania, eh bien, il y a dans ces années du début du XXe siècle une sorte de rêverie sur le monde médiéval. Et on s'y disait, le Moyen-Âge, c'était le temps de la chrétienté. Et on rêvait un peu. On rêvait un peu, on idéalisait un peu, et certainement, Pie XI a fait comme tout le monde à son époque. C'est-à-dire, il rêve d'une période où le christianisme aurait régné. Ah bon ? Le christianisme, au IXe siècle, Xe, XIe, XIIe, XIIIe. Alors si vraiment c'est le christianisme qui a régné à cette époque, nous avons quelques jugements qui nous attendent. Et cette chrétienté est un peu idéalisée, il faut bien l'avouer. Alors évidemment, le pape est quand même bien conseillé, c'est généralement le cas, aujourd'hui comme hier, et il n'insiste pas trop là-dessus. Il n'insiste pas trop sur le rêve politique. Il ne dit pas dans son encyclique qu'il faudrait faire à nouveau régner le Christ d'une manière politique. Par contre, il insiste, et c'est curieux comme ça a été moins bien entendu, il insiste pourtant, c'est même le sous-titre de l'encyclique, sur le règne social du Christ. Qu'est-ce que c'est que le règne social ? C'est quoi la doctrine sociale de l'Église qui est en place depuis une trentaine, quarantaine d'années ? C'est tout simplement la formation, la transformation concrète de ce monde. C'est-à-dire la promotion de la justice. C'est-à-dire la conversion des mœurs. C'est-à-dire la qualité de vie. Autrement dit, faire du bien aux gens. Voilà le règne social du Christ. Et de fait, vous savez, à son époque, c'est étonnant. J'ai fait hier une petite recherche, ou avant-hier, une petite recherche sur tout, sur toutes les, ce qu'on appelle les œuvres sociales qui sont nées dans cette ambiance. Vous savez, à la fin du 19e, début du 20e. C'est complètement stupéfiant. Je vais vous donner quelques-uns. Les jardins ouvriers. Vous allez dire, mais non, les jardins ouvriers, c'est Jean Jaurès, pensez-vous. C'est l'abbé Lemire. Bon, député, il faut dire. Il était député, et donc il a pesé de tout son poids pour créer, vous savez, ces espèces de petites parcelles accordées pour un prix modique, pour que les familles, alors voilà l'idée qui était extraordinaire, pour que les familles le dimanche et le samedi, pour ceux qui en avaient à l'époque, pour qu'ils puissent travailler sainement, se retrouver sainement en famille, à faire un travail en commun, la terre, cultiver des légumes, des choses toutes simples. C'est un prêtre qui a eu cette idée-là dans cet esprit de la doctrine sociale de l'Église. Et les patronages ? Depuis 1860, les patronages montent à Paris, à Lyon, à Dijon. C'est des choses qui sont très connues pour le coup. Et alors il y a une chose que peut-être vous ne connaissez pas. Moi j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune, on en riait un peu. C'était les sœurs piqueuses. Il y en a quelques-uns qui se souviennent. Les sœurs piqueuses, c'est quoi ? Mais c'est une idée, là aussi, complètement géniale. Fin 19e siècle, l'Église se dit, les gens vivent dans la misère. On réduit à l'esclavage, les gens. C'est terrible. C'est, vous savez, ce qu'on appelle la promotion industrielle. C'est l'industrie qui est promue, pas les gens. Et les enfants travaillent, quelques-uns dans les mines. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Et l'Église a cette idée géniale de soigner les gens, concrètement. Mais l'hôpital, c'est hors de prix. Eh bien, on installe des dispensaires de quartier, partout. Et à qui on confie ça ? Aux religieuses, surnommées les sœurs piqueuses. Voilà, parce qu'il y avait les bonnes sœurs qui s'occupaient des collèges, des écoles, et puis il y avait les sœurs piqueuses. Voilà, elles faisaient des piqûres aux gens. Les plus anciens parmi vous ont connu ça. Extraordinaire quand même comme idée. Les gens allaient se faire soigner gratuitement dans leur quartier. Et du coup, les sœurs connaissaient les gens. Et elles voyaient la pauvreté. Et puis elles savaient aider un peu autrement. Il y avait les soins médicaux, puis il y avait les autres soins. Et puis évidemment le scoutisme. Il y en a dans l'Église, là. Le scoutisme, 1910. Quelle belle œuvre. Le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation populaire. Ça a fait énormément de travail, il faut que ça continue à en faire. Et puis le syndicalisme chrétien qui existe depuis 30 ans. Et puis évidemment la promotion qui va venir très rapidement de l'action catholique, etc. Vous voyez, règne social du Christ. Eh bien là, vous savez, on a un exemple à cette époque. Un exemple extraordinaire de promotion du règne du Christ. D'ailleurs, la date qu'a choisi le pape est pour elle seule un enseignement. Car aujourd'hui, la date est ici, mais quand il a instauré cette fête, la date était le dimanche au plus près de la Toussaint. Et ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que dans son esprit, le premier règne du Christ, c'est en chacun d'entre nous. Car qu'est-ce qu'un saint ? Un saint, c'est celui qui accepte d'être habité par le Christ, qui accepte que règne en lui le Christ. Un saint, c'est celui qui montre le règne du Christ. Un saint, c'est celui qui prépare le royaume. Et donc, vous voyez, il avait collé cette fête auprès de la Toussaint. Vous voyez comme c'est peu politique, l'histoire du Christ roi. Et puis, en 1969, les évêques du monde entier ont décidé de décaler la date à aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier dimanche de l'année liturgique. Et pourquoi ? Eh bien, parce que avait été promue, entre-temps, une idée qui nous vient de Byzance, mais que nous n'aurions jamais dû perdre. Une idée, qui, si vous voulez, qui nous vient des chrétiens d'Orient. C'est le Christ Pantocrator, au bout de l'histoire. Les Byzantins en sont absolument convaincus. Au bout de l'histoire, tout sera récapitulé en Christ. Tout, la matière, les cœurs, l'intelligence, tout ce qui grandit croit vers le Christ. Chez nous, il y a eu Théard de Chardin, vous savez, qui a promu cette idée extraordinaire. L'universel travail, l'universelle promotion de l'intelligence monte vers le Christ. Et les Byzantins croient, et nous avec, que tout, un jour, sera habité par le Christ. Même la matière, même le cosmos, le cœur de tous les gens. C'est extraordinaire. Et c'est grâce à cette idée que la date du Christ roi a été décalé aujourd'hui, parce que c'est le dernier dimanche de l'année. Et pour signifier que ce règne du Christ, un règne de vie, un règne où le Christ sera tout, en tous et en toutes choses, eh bien c'est ce à quoi nous sommes destinés. C'est un règne de destination. Le Christ nous attire, et en nous attirant, il nous grandit.